pensée.
Vertigo avec la nuit du court-métrage, en tournée en Suisse romande, de septembre à novembre. Vertigo, Pierre-Philippe Cader.
Avec Jérôme Nussbaum en régie, bienvenue à vous. Nous accueillons aujourd'hui un photojournaliste, il s'appelle Didier Rueff et pendant 35 ans, fidèle à la pellicule noir et blanc, il a arpenté le monde. Mais ce n'est pas pour ça qu'on le reçoit, même si on évoquera cette partie-là de sa vie. On ne va pas parler de cette planète qu'il a sillonnée, on va plutôt parler de son année 2020 qu'il publie sous forme de recueil photographique avec une photo par jour. Et alors, combien de photos? Attention, il y a un piège.
Non, mais me regardez pas comme ça, j'ai aucune idée, je suis dans le piège.
Vous êtes le piège, monsieur. Il y en a 366. Eh oui. Ouais, voilà. C'était ça le piège.
Voilà.
Facilement éventé. Le livre est publié chez Tilschap. On va en parler avec Didier Rueff, notre invité. On ira également à la rencontre d'un premier roman, comme tous les jours de cette semaine. Aujourd'hui, Anne Morganac nous fera découvrir Clara Isée et son roman Mise à feu, publié chez Grasset. Avec vous, Florence, on ira à la rencontre des œuvres d'art possédées par la Banque cantonale vaudoise. Oui, la Banque cantonale vaudoise, comme beaucoup de banques d'ailleurs, achètent des œuvres d'art.
Oui, mais ça, c'est une collection qui a 50 ans, qui est très costaud. Et quand on voit une petite sélection très belle au musée quand on a des beaux-arts, et sera l'occasion de se glisser dans, finalement, pourquoi une politique d'acquisition pour une banque.
Exactement. Et puis avec vous, Pauline Rapa, eh bien, nous ferons le tour de ce qu'il est possible de voir, d'entendre, de lire, peut-être, d'écouter, même ce week-end.
Mais tout à fait. On en saura plus après.
Alors rendez-vous tout à l'heure. Place à notre invité, Didier Rueff.
17h, 18h, c'est Vertigo.
Imagine a movie that features one second of every day of the rest of your life. It will help you reflect. It will encourage you to wake up and seize the day. It's a modern-day video journal.
Développer le sens critique des élèves et en faire de futurs citoyens capables d'identifier le vrai du faux dans toute la masse d'informations proposées, tel est l'un des objectifs d'Un jour une actu.
Salut YouTube, c'est la 183e vidéo, ce qui veut dire que je suis à la moitié de mon défi.
Je vous propose un rendez-vous quotidien, tous les jours, pour revisiter votre chez-vous, pour aussi revisiter votre regard.
En photo, il existe le projet 365, ça demande une rigueur poussée, puisqu'il s'agit de réaliser une photo par jour pendant 365 jours.
Vertigo.
À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça?
De 17.
C'est où? C'est qui lui?
Un jour. À 18h. Une question. Sur la première.
Alors chez nous, c'est plein de jours, plein de questions. Bonjour Didier Rueff.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On va parler avec vous donc de ce projet, disponible sous forme de ce livre que j'ai là dans les mains. Il s'appelle 2020, Didier Rueff, tout simplement, publié chez Tilschap Éditeur. Je le transmets à mes camarades de jeu pour qu'elles puissent jeter un œil dessus. C'est un livre qui ne contient exclusivement que des photos en noir et blanc. Tout d'abord, comment allez-vous?
Je vais bien, même très bien. Je suis content d'être ici.
Ouais. Vous avez quitté le Tessin où vous vivez pour venir nous parler de ce livre.
Oui, je suis venu en direct parce que la dernière fois, on l'avait fait en duplex et c'est beaucoup moins agréable.
Je suis bien d'accord. C'est mieux que vous soyez là avec nous. Votre parcours, c'est celui, je le disais, d'un reporter photographe qui a sillonné le monde pendant 35 ans, très fidèle à la pellicule noir et blanc. Vous avez sillonné la planète pour votre travail et puis petit à petit, presque insidieusement, comme par ailleurs nous aussi dans nos vies, la photo numérique couleur a pris le dessus jusqu'à ce qu'un jour votre fille vous dise « Je préfère tes photos en noir et blanc à tes photos couleur ». Ça a été une sorte de déclic pour vous et depuis, ce noir et blanc si expressif est revenu en force par la magie d'un appareil photo numérique qu'on vous a offert, un petit appareil qui tient dans la poche. Il est à l'origine donc de ce projet photographique désormais publié qui montre une photo par jour prise durant cette année 2020. 366 clichés publiés donc chez Tilschap Éditions. Votre parcours de reporter photographe Didier Rueff qui vous a amené tout autour du monde, avec des sujets comme la pollution, le recyclage, les guerres, la pauvreté, et puis il y a cette année de 2020. Est-ce que l'approche photographique que vous avez eue pendant cette année 2020 est la même que lorsque vous alliez visiter des chantiers de désamiantage de bateaux ou vous rendiez dans des hôpitaux en Afrique?
Mais je pense que l'approche de ce livre, elle est le fruit de ces 35 années. C'est-à-dire que j'ai pu profiter de cette expérience acquise durant tous ces nombreux reportages aux quatre coins du monde, mais également en Suisse. Parce que finalement, oui, ma fille m'a gentiment suggéré de me remettre en noir et blanc, et ça a été un bon élément. Oui. Parce que ça me manquait, et surtout le digital couleur me permet de vivre, de faire des reportages. Mais je ne savais plus plus très bien comment faire du noir et blanc en digital.
Ah oui.
Donc là, j'ai pris en fait le taureau par les cornes et j'ai transféré les images en fait, voilà, d'un fichier couleur. J'en ai fait un fichier noir et blanc, sachant très bien ce que j'étais en train de faire puisque j'ai toute cette expérience du noir et blanc.
Donc lorsque vous prenez la photographie, évidemment vous vivez dans un monde en couleur, mais vous la voyez en noir et blanc déjà ?
Non, je la vois comme vous, je la vois en couleur, mais je sais ce qui va se passer, je sais quelles sont les zones qui vont se travailler, etc. Parce que finalement, c'est un processus tout simple, hein, c'est une image que je transfère en noir et blanc et après que je travaille comme je le faisais en argentique, c'est-à-dire que je vais un peu obscurcir des zones, un peu les éclaircir et puis il y a aucune retouche autrement, c'est une image qui est plein cadre.
Ouais, faites avec cet appareil que vous avez toujours dans votre poche.
On peut le voir cet appareil. L'appareil, vous l'avez.
Oui,
vous l'avez
bien
ici,
sûr que
hein.
je l'ai, il est là.
Non, mais quand même, on fait de la radio, donc on va
c'est
faire
vrai.
L'image.
Il faut qu'on montre,
il faut qu'on montre les
voilà. Oh, c'est tout petit.
Ah, c'est très compact.
C'est très compact,
noir,
ça
évidemment.
Tient dans une main et c'est très pratique, c'est très rapide et les fichiers sont très bons. Voilà,
donc ça fait de la bonne photo, de la belle photo.
Ça fait de la bonne photo.
Oui, d'accord. Moi, je crois que l'appareil n'avait aucune importance.
L'appareil n'a aucune importance. Mais c'est vrai en plus. L'appareil n'a aucune importance. C'est le photographe qui fait l'image finalement.
Ouais.
Mais l'appareil est important. C'est l'outil qui nous permet de capter cet instant. Ouais. Ou ces instants,
effectivement.
Mais de nouveau, ça veut dire que vous dégainez à n'importe quel moment, étant donné que vous l'avez dans la poche, donc c'est...
Je l'ai toujours bar, à portée de main, oui,
ouais.
Oui, un petit peu.
Par exemple, en arrivant ici, vous avez trouvé quelque chose?
Non, en arrivant ici, c'est une année un peu particulière, on en parlera peut-être après. Moi, je retourne à la photographie. Mais je sais pas si on veut dévoiler déjà.
Non, vous pouvez le dire, c'est à la fin du livre.
Parce qu'il s'est passé, c'est qu'à la fin du livre, en fait, j'ai eu un accident à ski banal et je me suis déchiré les ligaments. Donc, je retourne à la photo maintenant, à partir de ces jours. J'étais absent pendant 8 mois parce que je pouvais pas vraiment travailler. Donc, en fait, j'ai fait énormément de photos en 2020 et pas du tout en 2021.
J'ai bien fait de vous poser cette question. Hein.
Alors, là, on évoque votre travail, Didier Rueff, pour ce livre. Comment fait-on une photo par jour? D'abord, on n'en fait pas qu'une, on en fait plein tous les jours, j'imagine.
On en fait un certain nombre, ouais. Parfois peu, parfois beaucoup. En fait, ce qu'il faut, c'est pas très compliqué. Il faut juste se décider à faire ces images, c'est-à-dire sortir. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que quand j'ai commencé ce projet... L'idée est venue en 2019. Donc en décembre, je me suis dit, tiens, l'occasion, on va démarrer au 1er janvier. Donc le 1er janvier, j'ai fait en sorte d'aller chercher cette première image, un peu symbolique, dans les rues de Lugano. Et puis à partir de là, je me suis dit, bon, maintenant, on s'accroche, on y va. Donc tous les jours, j'y suis allé. Et puis dans l'année, j'avais des voyages de prévu en Afrique ou ailleurs. Et je ne savais pas, comme personne ne le savait, qu'à la mi-mars, tout s'arrêterait.
Vous avez suivi un cours lors de vos études de photographie, c'était à New York, avec une certaine Suzanne Kleckner qui avait un principe qui s'appelait « a roll a day », donc un rouleau par jour, une pellicule par jour. Et ça, semble-t-il, ça a été fondateur aussi pour vous, parce que ça demande une certaine organisation de l'esprit aussi.
Mais ça demande surtout une intention, c'est-à-dire de prendre la photographie, parce que à la base, tous les photographes, ont aimé la photographie, l'ont débuté comme un hobby, puis ils sont tombés dedans, et ils en sont tombés amoureux, et puis ils la pratiquent. Mais en fait, avec cette idée de ce fameux roll a day, c'était de se dire qu'il fallait vraiment essayer de trouver une image. Parce que c'est difficile, parfois il y a rien, mais d'essayer de chercher en permanence. Parce que finalement, la photographie, c'est un peu comme la pêche. Il faut aller pêcher le poisson.
C'est ça. Donc voilà. Il faut balancer sa ligne partout où on peut. C'est ça.
Balancer sa ligne peut-être, mais vraiment partir à la quête et être ouvert. Et finalement, c'est vrai que c'est un peu comme le sport. Il faut s'échauffer, faire un peu ses gammes, et puis essayer d'aller à la rencontre. Alors moi, c'est une photographie très humaine, donc il me faut aller là où je retrouverai la société humaine.
Comment est-ce que vous regardez autour de vous lorsqu'il y a obligation? Est-ce que votre regard de photographe change? Est-ce que votre regard d'homme change tout simplement parce que vous avez l'obligation de faire une photo?
Non, mais je pense que non. Non, je pense que je suis en permanence d'une certaine manière photographe. Donc ma façon de regarder est toujours la même. Comme je vous regarde en ce moment, il y a pas de différence. Et à un moment donné, il y a juste peut-être une conjonction d'éléments qui font que l'image se crée devant moi.
Oui, Florence.
Mais je je me demandais justement si c'était une manière aussi d'augmenter le réel, parce que chaque fois qu'on est comme ça, c'est comme quand on se balade avec un micro, quand on fait du reportage, par exemple, on a cette impression tout à coup de vivre toutes les strates d'un moment qui se déplie, qui se déploie grâce au micro, qu'on n'aurait peut-être pas réussi à ressentir si on était comme ça, simplement un simple quidam. Est-ce que pour vous, ça vous donne cette espèce de...
Mais moi, je dis souvent que j'ai l'impression d'être un peu une éponge, qui absorbe tout ce qu'il y a autour de lui, des éléments, de la situation, et j'essaye de l'exprimer dans ce petit objet photographique.
Alors cette recension de l'année 2020, telle que vous l'avez vécue, Didier Rueff, avec vos photographies, je rappelle que c'est un livre publié chez Tilschap, avec donc ces 366 images en noir et blanc. Évidemment, on commence le 1er janvier, tout va à peu près bien, appelons ça comme ça.
Plutôt bien, oui.
Plutôt bien même, oui. Et puis petit à petit, on se rend compte que là où vous vivez, au Tessin en particulier, eh bien on commence à voir par exemple des ambulances militaires ici et là, on commence à voir des gens alignés dans des lits, dans les hôpitaux, côte à côte, aidés par des respirateurs artificiel. Vous montrez aussi un événement tessinois, appelons-le comme ça, qui a eu énormément d'impact sur ce canton, alors que pour nous, ça a eu beaucoup moins d'impact. C'était moins visible chez nous, c'était moins violent, semble-t-il.
Bah, disons que dans les grandes lignes, ce qui s'est passé, c'est qu'au mois de février, je suis parti à Abu Dhabi, Dubaï, pour un reportage. Et là, j'avais des échos. J'avais des échos de ce qui était en train de commencer à arriver en Italie. J'avais mon fils m'a appelé en me disant, mais est-ce que... Fais attention quand tu reviens, etc. Puis à mon retour à l'aéroport à Milan, j'ai eu droit au premier, à ces premiers contrôles de température avec un pistolet, enfin ces espèces de, voilà. Et j'ai fait une photo, mais alors là, ils n'ont pas du tout aimé, Donc là, on m'a obligé à effacer la photographie et j'ai réalisé que il se passait quelque chose. Puis au Tessin, qui a été le canton le plus impacté, donc on a été les premiers, certainement les plus impactés en Suisse, à partir de la mi-mars, c'est devenu très très sérieux. Et il m'est arrivé juste avant que le grand choc démarre, d'aller à Genève et de réaliser que c'était le grand carnaval, c'était la vie normale. Tandis qu'au Tessin, il y avait déjà, les gens ont commencé à porter les masques, à laisser distanciation, et puis petit à petit, ce que vous dites, le canton s'est fermé, mais s'est fermé de manière très abrupte, radicale, et avec raison, parce que sinon, ça aurait été une hécatombe.
Qu'est-ce que ça a changé dans votre approche de la photographie, ce moment particulier?
Bah, ce qui a été à la fois terrible et extraordinaire, c'est que la ville s'est vidée. Donc j'ai retrouvé un contexte que je connais, que j'ai connu, que ça soit à New Orleans lors de la catastrophe de l'ouragan Katrina, que ça soit à Tchernobyl avec les désolations de Pripyat. J'ai retrouvé aussi le confinement. Des villes fantômes. Ouais. Le confinement, la ville s'arrête, le silence. Et puis d'une certaine manière, j'avais, parce qu'à la différence de la France ou de l'Espagne, il était possible de bouger. Donc j'étais finalement tout le temps dehors, dans les rues, et je faisais des photos. Et la ville s'est transformée sous mes yeux. Elle est devenue tout d'un coup... Parce que Lugano, finalement, c'est pas Shanghai, c'est pas Paris, c'est pas une ville trépidante de vie. Donc, mais tout d'un coup, cette espèce de vie a créé une atmosphère très particulière. Oui. Et très riche, créativement.
Alors, Lugano est déjà une ville assez particulière en raison de son implantation, de son architecture. J'imagine que là, ça devait être assez science-fictionnesque, non?
Bah, c'était surprenant. C'était assez délirant de voir qu'il n'y avait plus personne. Ouais. Il n'y avait plus personne. La ville s'est vraiment arrêtée. Et puis, tous les frontaliers, par exemple, une immense activité économique a cessé, les magasins ont fermé. Et, dans le reste de la Suisse, on ne comprenait pas. Parce que finalement, on a eu beaucoup de touristes, suisses-allemands qui sont venus durant les périodes de Pâques et qui ne comprenaient rien à rien. Ils ne comprennent rien.
Ce qui est drôle, c'est que par ricochet, on a vécu la même chose, nous, lorsqu'on était en Suisse-Alémanie.
C'est vrai.
Vous savez qu'on arrivait, on voyait des gens aux terrasses, qui s'embrassaient, tout allait bien, on débarquait avec nos masques, on avait l'air totalement ridicule.
Non, mais c'est parce que tant qu'ils n'ont pas été vraiment touchés dans leur chair, parce que finalement, le côté terrible de cette maladie, et vous le soulignez avant, quand j'étais parce que j'ai pu accéder à cet hôpital Covid, il y en avait deux, Il y avait la Carita à Locarno et la clinique Moncucco à Lugano. Et cet hôpital, c'était devenu l'hôpital Covid. Donc c'était une zone dans laquelle finalement les gens qui arrivaient étaient en très fort danger de mort. Oui. Et moi j'ai accédé aux salles où les gens sont sous respirateur. Et ce qui était terrible, c'est que moi j'ai photographié beaucoup d'hôpitaux dans le cadre avec les Médecins sans frontières, etc. Mais là dans cette scène là, ce qui était fou, c'est que les gens étaient comme vous et moi finalement. Ils n'avaient aucune blessure, aucun ils étaient tout à fait normaux, simplement, ils ne respiraient plus. Mmh, mmh. Et il y avait ce petit bruit assez extraordinaire, mais terriblement effrayant, des machines bip 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 bip, et c'était terrible. Et les infirmières, les docteurs qui étaient là, qui finalement faisaient un travail extraordinaire, mais qui en même temps parlaient de à midi, qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va, pour se changer les idées. Et l'une des infirmières, c'est une petite anecdote assez drôle, à un moment donné, m'a dit, mais photographe, vous avez vu que vous avez traversé la ligne rouge? J'ai dit, bah, bien sûr, en entrant dans l'hôpital. Elle me dit, non, regardez par terre. Et par terre, je vois une toute petite ligne rouge. Et elle me dit, cette ligne rouge, c'est que vous êtes entré dans la zone à très fort danger de contamination. J'avais un simple petit masque canard.
Oui, oui.
Donc, voilà.
Je suis en train de feuilleter et je vois le moment de transition, hein, début 2020, et puis ensuite on sent que ça commence à chauffer. En même temps, on voit que votre regard n'est pas que catastrophiste, parce qu'on voit par exemple un monsieur en masque, et puis à côté on verra une dame qui prend un bain de soleil complètement normalement. Donc c'est,
il y a aussi, non, parce que
oui. Non, allez-y.
Excusez-moi, parce que l'idée, en fait, c'était pas du tout de faire un livre. C'est pas un livre sur la pandémie. C'est un livre sur l'année dans laquelle la pandémie s'est provoquée.
Donc il y a de la vie, de toute façon.
Il y a de la vie. Mmh. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est d'alterner les moments de grande tristesse avec des moments de vie normale. Parce que finalement, il s'avère que durant ce mois de mars et d'avril, ça a été un mois extraordinaire. Là où au Tessin, normalement, il fait froid, il pleut, etc., il a fait super beau. Donc les gens étant confinés, se mettaient sur des chaises longues dans leur jardin, etc., etc. Donc ce qui m'a intéressé, c'est d'alterner justement, et pas de faire des masques tous les jours, parce que sinon je serais devenu fou.
Oui, évidemment. Oui.
Je m'excuse, mais je suis très...
Allez-y.
Je suis très inspiré. Parce qu'en fait, je tombe sur une image aussi qui me fait beaucoup sourire, parce qu'on est face, par exemple, à une sorte de bas-relief où on voit peut-être... Est-ce Marie qui prend entre ses mains, dans ses bras, Jésus, c'est peut-être une déposition de croix, je sais pas, on voit une proximité entre ces deux êtres qui sont justement sculptés dans un bas-relief, puis juste à côté, Così ti proteggiamo, avec la fameuse affiche rouge, comment on se protège, et puis surtout ouais. Avec les distances. Donc il y a aussi cette espèce de petite malice que vous mettez très vite, en fait.
Oui, là, oui, on est au mois de mars, mais vous avez entièrement raison, c'est l'entrée d'une église.
Ouais,
c'est l'entrée d'une église sur laquelle on a imposé ce code vestimentaire, d'une certaine manière, qui est devenu notre norme, absolument. Salut. Puisque finalement, ici aussi, en entrant dans vos locaux, il faut mettre le masque.
Et quand on rentre dans les locaux de la radio tessinoise, on est scanné pour la température également, ce qui n'est pas le cas ici.
D'accord.
Effectivement, ouais.
Non, moi, je n'ai pas eu ça.
Ah, moi, j'ai eu, moi.
Alors, vous étiez... Ouais,
mais bon. J'ai passé avec succès, je suis content.
Non, parce que l'effroi, c'est de ne pas le passer avec succès.
Évidemment. Mais alors, vous évoquiez la malice. Effectivement, c'est quand même aussi une de vos caractéristiques, Didier Rueff, c'est que, pas forcément pour tous vos travaux, évidemment, mais en tout cas dans ce petit livre-là, et c'était le cas dans un livre précédent, il y a souvent de la malice et ce regard un peu malin que vous avez en regardant l'environnement autour de nous. Il y a quelques photos très marrantes, très burlesques, très étonnantes, très intrigantes également. Ça, vous le cherchez ou
non.
C'est le hasard qui s'impose à vous?
Non, c'est la vie. La vie. Ça a toujours été. Hein. On me l'a fait remarquer très vite. Déjà à New York, on me disait, mais il y a toujours une petite touche d'ironie, une petite touche d'humour, de malice. Mais je crois que c'est simplement parce que j'aime profondément la vie et les gens m'intéressent. Donc... voilà, j'y suis sensible.
Ouais.
Et quand quelque chose me fait rire ou m'interpelle, c'est en général souvent le bon point de départ d'une image qui va arriver.
Comment avez-vous fait le choix des images?
Alors là, c'est assez simple. Pour une fois, la mise en page du livre, elle est relativement simple, vu qu'on commence le 1er janvier et on finit le 31 décembre. Maintenant, chaque jour, alors ça c'est le charme du digital, c'est que chaque jour je faisais une espèce d'editing, le fameux editing dont je parle toujours aux jeunes photographes, qui est la clé de base de tout. C'est-à-dire que je choisissais une image. Et chaque jour, j'en retenais une, finalement. Et le livre s'est construit de la sorte. Il s'est avéré qu'à la fin, quand on a fait le montage final... Mon éditeur m'a dit, écoute, cette scène-là, tu l'as déjà faite, est-ce que par hasard, tu aurais une autre image? Alors, il s'est avéré qu'une fois, je l'avais, une autre fois, j'avais rien.
Mais il a l'œil.
Il a l'œil. Non, il a l'œil, il a la connaissance, c'est lui qui a choisi le format, qui plaît énormément.
Horizontal.
Horizontal. Alors, horizontal, c'était, comme il y a vraiment beaucoup de photos horizontales, ça avait plus de sens.
Oui, effectivement. Alors, il y a le choix des images, bien évidemment, et dans ces images, parfois, il y a vous, quelques autoportraits.
Oui, ça m'est jamais arrivé.
Oui.
Ça m'est jamais arrivé, mais vous savez, une année, c'est très long. C'est un petit peu ce que vous disiez dans la bande-annonce. Et parfois, c'est très vide. Ouais. Et dans le très vide, eh ben, je me suis dit que finalement, la seule personne qu'il y avait que je pouvais photographier, c'était moi. Donc, je suis pas mis en scène, mais d'une certaine manière, j'étais à un moment donné, j'étais dans une salle d'attente chez mon médecin avec le masque. Et finalement, le masque était un assez bel objet.
Ouais. Oui, effectivement.
Mais vous voulez venir à la dernière image?
Non, pas tout de suite. On va y arriver à cette fameuse dernière image, qui est là aussi un autoportrait de vous, Didier Rueff. Je rappelle que si vous êtes notre invité aujourd'hui dans Vertigo, c'est parce qu'on parle de ce livre qui contient 366 clichés. C'est toute l'année 2020 que vous avez photographié et vous avez sélectionné une photo par jour, publiée donc dans ce livre édité par Tilschap Édition, tout simplement, éditeur auquel vous êtes, semble-t-il, assez fidèle. Le noir et blanc, ça vous a fait un vrai choc d'y revenir? Ça a été une reprise en main difficile, ou au contraire, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas et tout a été comme sur des roulettes?
Non, ça a été un vrai plaisir. Ça a été comme le vélo. Quand on recommence, on n'oublie pas, mais on souffre. Donc il faut bien travailler, il faut s'y remettre.
La pente est forte.
Mais c'était un vrai bonheur parce que finalement, le noir et blanc, ce que j'aime tellement, c'est que c'est cette espèce de... Moi, j'ai grandi avec une télévision noir et blanc. Je le dis toujours. Est-ce que ça a façonné mon esprit à jamais? C'est possible. Mais ça offre une possibilité de prendre une certaine distance avec la vie, avec les choses. Et ça a, selon moi, plus de profondeur. Mmh. Ça permet d'entrer plus dans l'intensité du moment, de la scène, de la vie. Et c'est ce qui lui donne toute cette force.
Alors, il y a photo en noir et blanc et photo en noir et blanc, si j'ose m'exprimer ainsi. Si vous êtes, vous qui nous écoutez, féru de tous ces sites de photographie, vous verrez souvent, des gens qui créent des groupes du genre Magnum Photographie, qui ne font que de la photographie en noir et blanc. Mais ça ne suffit pas à faire de la photo. Le simple fait de faire du noir et blanc. Ça demande un regard, ça demande une construction, ça demande un travail sur l'image qui ne se satisfait pas d'être simplement en noir et blanc.
Bah non, malheureusement, ça serait. Oui. Non, c'est malheureusement beaucoup plus compliqué que ça, puisque finalement, et c'est ça dont je me souviens de Gilles Pérez, ce photographe de Magnum, qui disait lors d'un workshop, il disait, moi je peux tout vous dire sur la photographie. L'une chose que je peux pas vous dire, c'est comment je prends mes images, puisque finalement, c'est une espèce de mix entre la réaction, le cerveau, comment est-ce qu'on est façonné, nos expériences, notre vie, qu'est-ce qu'on veut dire? Parce que finalement, c'est un merveilleux. Moi, j'aurais adoré écrire, mais j'écris très mal. Par contre, la photographie, c'est une forme d'écriture, une écriture visuelle, et qui demande un regard, voilà.
Et qui demande un vocabulaire aussi.
Non? Pas toujours. Je pense que, une espèce de vocabulaire, je saurais même pas le formuler, je saurais pas mettre de mots sur le vocabulaire. Mais ça demande une... Ça demande surtout beaucoup de je trouve plus le mot en français, beaucoup de...
Dites-le en italien, en Florence.
Non mais je sais plus les...
Oui, allez-y, c'est son italien.
Ça demande beaucoup de...
D'impegno. Voilà, d'engagement.
D'engagement, ouais. Voilà, d'impegno. Ça demande du...
Elle donne le chiffre du loto aussi. Hein.
Hein? Elle est?
Elle donne le chiffre du loto, elle sait tout, elle tout. Elle vous extirpe les mots du cerveau avant qu'elle arrive à votre bouche.
Non, mais ça demande un engagement constant, important, et puis il faut la pratiquer. La photographie, il faut la pratiquer. Mais c'est comme tout. Je veux dire, il n'y a pas de secret. Je veux dire, pour être un bon cuisinier, il faut cuisiner. Pour être un peintre, un artiste, un bon animateur de radio, il faut pratiquer. Ouais. Voilà, c'est ça.
Alors justement, là, vous pratiquez pendant un an cette série de photographies, vous en faites plusieurs tous les jours, vous les sélectionnez, vous les triez. De quelle manière ce travail a aussi changé votre manière de travailler pour les commandes que l'on vous fait? Lorsqu'on vous envoie un reportage en Tchéquie récemment,
alors,
est-ce
là,
que ça change quelque
non,
chose?
Non, mais en Tchéquie, personne ne m'a envoyé. Je suis parti, mais je ne peux pas vous donner la raison pour laquelle j'y suis parti, parce qu'on est en train de travailler sur un reportage qu'on a commencé avec ce journaliste à Abu Dhabi, Dubaï. Et ce reportage, il est à l'arrêt à cause de la pandémie. Donc, on a pu faire un petit volet en Tchéquie, mais personne m'y a envoyé. Donc, les commandes de nos jours, il y en a de moins en moins. Hein. Donc, il faut s'inventer des variantes, il faut se créer du travail, des visions. Moi, j'ai jamais attendu. Hein. J'ai jamais été un photographe qui, assis à la maison, attend que le téléphone sonne. J'ai toujours été plutôt proactif.
Oui. Ouais, mais qu'est-ce que ça change dans votre façon de travailler, le fait d'avoir fait ces photos chaque jour? Est-ce que votre regard maintenant fonctionne différemment? Est-ce que vous avez une façon de travailler ou de faire les photographies qui est différente aujourd'hui?
Non, je crois pas. Non, ce que j'ai adoré, c'est que alors la grande différence, c'est que j'ai travaillé avec un tout petit appareil, très léger, moi qui pendant des années porté beaucoup d'appareils sur moi. Le fait de travailler avec quelque chose de léger, de assez inopportun pour les gens, c'était agréable. Ça, c'était très agréable. Avec un côté peut-être plus spontané, non, pas, même pas plus spontané, mais ça, c'est un petit peu plus discret.
C'est donc plus ça, inoffensif.
Mais de nos jours, les gens se sentent tellement agressés quand ils voient un appareil photo, alors qu'ils sont en permanence en train de se photographier, de se mettre sur TikTok, sur les réseaux sociaux, sur Dieu sait quoi. Si vous avez le malheur de les photographier, c'est une atteinte à leur liberté, à leur personnalité, à tout ce que vous pouvez imaginer. Mais...
C'est le cas partout dans le monde ?
Non.
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 Encore des pays où on peut sortir un appareil photo, avoir un sourire.
En Asie, on peut faire. Ouais. En Afrique, on peut faire beaucoup de choses, mais il faut un petit peu d'accord.
Oui.
Parce qu'en Afrique, ils vous le diront, s'ils sont pas d'accord, ils vous le diront de manière plus radicale. Mm-hmm. Mais non.
Ouais.
Non, il y a plein d'endroits où on peut. Mais je pense qu'après, c'est aussi une façon de trouver le bon dialogue et tout. Mais c'est vrai que l'appareil photo traditionnel, le réflexe fait un peu peur.
Ouais. Il est un peu voyant aussi. Ce qui nous amène à la fameuse dernière photo du livre.
Ah, la fameuse, ouais.
The Famous One. Est-ce qu'on en parle ou est-ce qu'on laisse les gens dans l'expectative? Parlons-en. Vous avez eu un accident de ski et vous photographiez, c'est un autoportrait à l'hôpital, avec le cathéter, le miroir, je ne sais pas, c'est la salle de bain, les toilettes de la chambre d'hôpital, peut-être.
C'est tout à fait ça. Voilà. C'est 2 heures après l'opération. Je n'avais pas fait de photos ce jour-là. Je pouvais à peine utiliser mon bras. Donc, je me suis dit, bah tiens, elle est là. La seule possibilité que j'ai, c'est de faire un autoportrait. Et j'avais pas réalisé le poids de cette image quand je l'ai faite. Je dois dire que quand je me suis revu après, je me suis dit, waouh, t'étais quand même pas passablement parti, quoi. Alors j'ai tout, j'ai les bas de contention, j'ai un slip qui est pas très beau, j'ai mon bras en écharpe. Il y a tout, quoi.
Ouais. Et tout ça à cause
c'est la fin du mythe.
Accident de ski, voilà, c'est la fin du mythe, exactement.
On peut que redémarrer après ça.
C'est vrai.
Et ouais, on peut pas vous en vouloir de photographier les autres aussi, du coup, après
non,
ça.
Non, alors là, j'ai...
Merci beaucoup Didier Rueff, merci
à vous.
Venu nous parler de ce livre qui recense toutes vos photos, une par jour en tout cas, de l'année 2020, 366 clichés en noir et blanc. C'est édité chez Til Schaap Édition, merci beaucoup. Et puis vous avez quelques événements à venir, je crois. Vous donnez des workshops de temps en temps?
Idéalement les workshops, hein, nous aimerions beaucoup en donner, ouais, mais la pandémie nous contraint un peu à nous limiter pour l'instant.
Ouais. Mais ça va revenir.
Ça va revenir. Et puis, il y a des intentions de reportage. Mais là aussi, c'est un petit peu compliqué.
J'imagine. Merci d'être venu nous voir.
Merci à vous.
À bientôt.
Et si on sortait du coma, le réveil a sonné. C'est quoi la vie d'avant dans le monde d'après? Et si on sortait du coma, le réveil a sonné. Vas-y, rhabille-toi, la course va recommencer. Il est quelle heure? Il n'y a plus de bruit. Le monde est stone et les humains aussi. Seul dans nos cages, on s'ennuie. On sauve le monde en regardant Netflix, bloqué dans Black Mirror. Sauf que c'est la vraie vie. Y'a des plans vigiles, des tsunamis, Roman Polanski. C'est pas fun, je sais ma chanson n'est pas fun. Mais parce que le monde n'est pas fun, désolé si je te fous le seum. Et si on sortait du coup? ça c'est fun. Et si on sortait du coma, le réveil a sonné. C'est quoi la vie d'avant dans le monde d'après? Et si on sortait du coma, le réveil a sonné. Vas-y, rabis-toi, la course va recommencer.
C'était Suzanne dans Vertigo, le monde d'après. Vous le savez, pendant ces deux semaines de vacances scolaires, on vous propose de découvrir des premiers romans. On arrive à l'avant-dernier premier roman à découvrir. On va s'intéresser aujourd'hui à Clara Isée et son roman Mise à feu, publié chez Grasset. C'est la sélection d'Anne-Laure Ganac.
Bon, déjà qu'avec ce livre, c'était la folie, mais là, depuis ton émission, les libraires se font littéralement dévaliser.
Vous l'avez fait expertiser, le manuscrit ?
Quand elle m'a apporté le manuscrit, elle avait cette étincelle dans les yeux comme si elle avait découvert le Pérou. Tu sais qu'elle a vendu des droits pour le cinéma ? Vertigo.
On se retrouve toujours dans un livre d'une façon ou d'une autre.
L'an 2000 est sur le point de surgir. Dans la maison, les adultes boivent, dansent, festoient comme il se doit autour de l'Amazone. C'est ainsi que l'appellent ces deux enfants, Gaspard et Nine, qui regardent cette femme puissante, libre, pleine de désir. Il y a aussi Natchka avec eux, une pie qui parle. Mais à peine le passage au nouveau millénaire acclamé, un incendie se déclare dans la maison. C'est la panique, la fuite en pleine nuit. L'Amazone en profitera pour disparaître, laissant les enfants à leur oncle peu aimable et à leur nouvelle bataille, cultiver ensemble le goût de vivre et de grandir.
Bientôt, les cris dans la maison changeraient de nature. Un invité entendrait des craquements au premier étage. Plusieurs personnes monteraient à sa suite et hurleraient en redescendant 4 à 4 l'escalier en bois. Le feu se répandrait et chacun serait dans la rue. Les cris de la fête dévorés par la peur, le silence et le tapage fou des braises nocturnes. Les livres brûleraient. Les vitres des deux chambres d'enfants au premier étage exploseraient. Les flammes jailliraient par les fenêtres, immenses, terrifiantes de beauté et de sauvagerie. Depuis les hauteurs, les oiseaux observeraient la maison, feu d'artifice à l'horizontale, et traceraient un chemin code dans la fumée pour ne pas se brûler. Les hommes étaient fous. Le foyer palpitant apparaîtrait aux yeux d'un petit garçon qui regarderait par le hublot d'un avion, peu de temps après son décollage pour l'Italie. Foyer qu'il dessinerait sur la page blanche, posé sur la tablette que sa mère aurait tout juste ouverte. Plus tard, adolescent, à la démarche de cheval farouche, portant le nom du soleil, il repenserait souvent à cette grenade ouverte, comme un cœur dans la ville. Déboussolé, les invités de l'Amazone chercheraient longtemps la mère et ses enfants. On ne les avait pas vus sortir. Les chambres crépitaient. On pleurerait. Le feu dévorait le millénaire.
C'est puissant, troublant, traversé de magie comme un conte, percé de douleur comme un cauchemar, mais aussi de force, d'émotions vibrantes comme votre voix, je trouve, quand vous chantez. Clara Isée, bonjour.
Bonjour.
Car vous êtes musicienne, autrice et chanteuse. Vous avez sorti votre premier album en 2019, Le Monde s'est dédoublé. Et vous venez de publier chez Grasset votre tout premier roman, Mise à feu, dont je viens de faire un rapide résumé. Elle vous est venue quand, cette idée ?
L'idée vraiment du duo de Gaspard et Nine est là depuis très longtemps. Et après, c'est il y a 2 ans et demi maintenant, en rentrant d'un concert. Je crois qu'à un moment donné, quand les personnages nous habitent fort, ils finissent par toquer à l'intérieur. On les laisse sortir. Et en rentrant d'un concert, j'ai commencé à écrire. Comme ça.
Et son style entre conte et réalisme, est-ce qu'il est venu en même temps que l'idée ou avant ou après le récit ?
Eh ben, en fait, j'écris depuis très longtemps, mais c'était une discipline qui était intime par rapport à la musique que je partageais depuis déjà un petit temps. Et j'ai commencé par l'écriture de poèmes, de poésie. Du coup, je pense que c'est quelque chose qui nourrit beaucoup ma langue en règle générale, même dans mes textes de musique. Et après, ça m'intéressait pour ce texte-là d'aller chercher dans différents genres, et notamment dans le conte et dans le réalisme magique un peu à la sud-américaine, dans cette idée que l'imaginaire devient performatif. Enfin, cette définition-là sud-américaine de la magie, c'est-à-dire qu'à force d'imaginer, on fait advenir les choses. Et pour moi, c'était intéressant d'aller creuser un peu dans ces espaces-là parce que ça me permettait d'avoir des outils pour faire saisir le regard de l'enfant sur le monde, quoi.
Et ce titre, Mise à feu, pourquoi ?
mise à feu pour plein de raisons. D'abord parce que pour moi, c'est un titre que j'espère programmatif. Qui est un titre pour un premier roman, c'était aussi une façon pour moi de me lancer d'une certaine manière. Et puis, par ailleurs, pour le feu est vraiment une des thématiques très très centrales du livre, puisque tout le roman est construit autour de la première scène de l'incendie. Et ensuite, pour moi, une mise à feu, c'est l'inverse d'une mise en terre. Et c'est quelque chose qui évoque à la fois un décompte, donc une rythmique, et qui est propre au livre, je crois. Oui, il y a quelque chose d'à la fois brutal et de l'ordre de la régénérescence, je crois.
Qui sont ces personnages pour vous, Gaspard, Nine et l'oiseau qui parle ?
C'est des personnages qui m'habitent depuis l'enfance. Je crois que ce qui m'intéressait, c'était de... Enfin, à la naissance de ce livre, c'était de raconter la relation fusionnelle entre un frère et une sœur et de raconter comment les pactes d'imaginaire qui sont créés dans l'enfance pour supporter un réel trop violent deviennent enfermants quand l'âge adulte arrive et si on les réénonce pas, si on les transforme pas. Et Nouchka, la pie, l'oiseau qui les accompagne, qui est à la fois leur ami et je pense une façon de symboliser aussi leur langage, puisqu'ils sont les seuls à la comprendre et qu'à un moment donné, Nine, en grandissant, elle se met à plus entendre la pie comme si elle était exilée du langage de l'enfance, alors que Gaspard se met à entendre de plus en plus de voix. Donc c'était aussi tout un cheminement autour de l'idée de l'extrême sensibilité qui peut confiner à la folie et ça me permettait d'explorer ces espaces-là, oui.
Qu'est-ce qu'il a changé en vous, ce premier roman, Clara Isée ?
Bah, plein de choses. D'abord, je crois que je, comme après un album d'ailleurs, mais ce qui est émouvant, c'est de se rendre compte à quel point ça nous modifie. Ça m'a modifié en tout cas d'écrire ce roman et du coup, je vois bien que là, par exemple, je travaille sur mon album et que mon album n'aurait jamais été le même s'il n'y avait pas eu l'écriture de ce livre. Donc c'est assez émouvant, oui.
Mais précisément, qu'est-ce que vous diriez qu'il a changé ? Qu'est-ce qu'il a...
Bah, il a créé un désir encore plus grand d'écrire. Il a créé le fait d'avoir ces personnages-là qui m'habitent tous les jours, auxquels je pense, qui sont comme des espèces d'amis. Et il m'a apaisée, je crois.
Les premiers seront les derniers, a dit quelqu'un. Votre premier roman, est-ce qu'il est de cet avis ?
Non, je vais en faire. Non. Et ce ne sera pas le dernier. Mais je pense que par contre, je crois que dans tout premier objet, il y a déjà en germe les suivants, quoi. Mais par contre, non, il y en aura d'autres, j'espère. Enfin, en tout cas, j'y travaille.
Enfin, si votre premier roman était une chanson, ce serait laquelle ?
Je dirais que ce serait une chanson qui s'appelle Pyromane et qui est sur mon prochain album.
Ah, on va pas pouvoir l'écouter alors ?
Non. Oh, mais par contre, vous pouvez écouter Le Monde s'est dédoublé qui, de toute façon, fait partie aussi de ce roman de manière très forte.
Alors, on va écouter Le Monde s'est dédoublé. Merci beaucoup.
Au revoir.
Ce matin, il est arrivé une chose bien étrange. Le monde s'est dédoublé. Je ne percevais plus les choses comme des choses réelles. Le monde s'est dédoublé. J'ai pris peur, j'ai crié que quelqu'un me vienne en aide. Le monde s'est dédoublé. J'ai accueilli un ami qui m'a pris dans ses bras et m'a murmuré tout bas. Regarde derrière les nuages, il y a toujours le ciel bleu azur qui lui vient toujours en ami te rappeler tout bas que la joie est toujours à deux pas. Il m'a dit prends patience, mon ami prends patience, vers un nouveau rivage ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaire de ses phares, t'éclaire de ses phares. Il est arrivé une chose bien étrange. Le monde s'est dédoublé. J'ai senti le temps se fondre un instant sur les visages mêmes. Le monde s'est dédoublé. Vos corps que je percevais hier encore dans leur exactitude ont perdu leur densité.
que la joie est toujours à deux pas. Il m'a dit prends patience, mon ami prends patience, vers un nouveau rivage, ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaire de ses phares. Regarde en dessous de la nuit, il y a toujours le jour qui pose ses lumières sur un coin de la terre, te rappelant tout bas que la joie est toujours à deux pas. Je te dis prends patience, mon ami prends patience, vers un nouveau rivage, ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaire de ses phares.
Clara Isée, son roman est publié chez Grasset, il s'intitule Mise à feu. Vous aurez compris qu'elle a tous les talents puisque c'est elle que l'on vient d'entendre avec cette chanson.
17h, 18h, c'est Vertigo.
Et on retrouve Florence Grivel qui nous accompagne depuis le début de cette émission. Florence, on va parler avec vous de la collection de la BCV, la Banque Cantonale Vaudoise. Elle dévoile en ce moment au Musée Cantonal des Beaux-Arts de Lausanne une partie de cette collection sur 10 années d'acquisition récente. Et c'est l'occasion de se pencher sur cette institution pour qui collectionner est en fait une aventure au long cours.
Oui, ça fait plus de 50 ans que l'aventure a commencé. C'est une collection constituée de 2400 œuvres, ancrées dans la création vaudoise. Une belle façon de soutenir un vivier qui se caractérise par une diversité d'expression artistique de très haute qualité. C'est aussi encourager les jeunes pousses prometteuses, accompagner leur carrière. 240 artistes sont aujourd'hui suivis par la commission culturelle de la BCV. C'est être là, donner de la visibilité, puisque comme on va l'entendre, cette collection vit aussi hors exposition. Elle fait partie intégrante de l'institution.
Et dans cette exposition précisément, quelles en sont les tendances ?
Alors on observe que la commission, bien heureusement, n'est pas monomaniaque. Elle est ouverte à une grande variété de styles. Il y a 25 artistes présents. Alors évidemment, il y a pas mal de différents types d'abstractions. C'est une caractéristique de la scène suisse et vaudoise en particulier. Donc on a du géométrique, des effets d'optique. Mais il y a aussi la figuration, des genres qui appartiennent à l'histoire de l'art, comme le portrait, la nature morte, qui sont rejoués évidemment à l'ère contemporaine. Des influences pop, bande dessinée, pub, sculpture, photo, peinture. C'est hyper fresh et toujours cette, non mais vraiment, et toujours cette qualité high level des productions artistiques.
On est ça fait pas un pli.
Mais oui, moi, je suis très polyglotte. Et l'accrochage surtout est très dynamique, permet de révéler chaque pièce tout en faisant vibrer un ensemble, ce que je trouve très fort. Et c'est Catherine Hotenin-Girard, conservatrice de la collection d'art BCV, qui en est l'orfèvre. Alors juste avant de l'entendre, je vous propose de rencontrer Daniel Herrera, responsable média et communication à la BCV, à qui je demande mais à quoi sert une collection d'art pour une banque?
C'est une excellente question. Alors, il y a plein de manières de la voir. Pour nous, à la BCV, c'est tout simplement un pan de notre, ce qu'on appelle la responsabilité sociale d'entreprise, notre engagement au sein de l'économie, de la société vaudoise. Et puis là, ben, c'est le soutien aux artistes émergents, aussi certains qui sont un peu plus reconnus. Et puis, petit à petit, ben, on a constitué quelque chose qui est de l'ordre du patrimoine culturel et qui participe finalement à la scène culturelle vaudoise.
J'ose vous demander quelque chose de très personnel. On est là dans cette magnifique salle avec cet accrochage très alléchant, très dynamique aussi. Qu'est-ce que vous auriez envie de nous présenter? Quelque chose, un de vos coups de cœur?
Ben, très volontiers, d'autant plus qu'il est dans mon bureau, d'habitude. Donc, c'est l'œuvre de Jan Gross et Arguigné Scandone, qui est une photo prise en Amazonie sur un fleuve. En réalité, c'est une nature morte. On hésite d'ailleurs entre photo et peinture. Elle est tellement bien travaillée.
C'est quoi? C'est
belle.
Des poissons, c'est ça?
Oui, ce sont des poissons qui sont dans un filet avec des fleurs, donc c'est un hommage que rendent les populations locales à la nature qui leur donne à manger, et c'est magnifique.
Alors la transition me semble parfaite, Catherine Hotenin-Girard. Jan Gross fait partie de votre collection depuis un moment, et comment ça se passe? Comment est-ce qu'on entre dans cette collection?
Alors justement, la particularité des acquisitions de la collection depuis le début des années 2000, c'est vraiment suivre le parcours des jeunes artistes, enfin les repérer déjà. Il se trouve que Jan Gross, nous avons acheté ses premières pièces sur la thématique des avalanches, qui était en fait son travail de diplôme. Et depuis là, je suis régulièrement son travail, avec l'acquisition de cette dernière pièce qu'il a réalisée dans le cadre de cet immense projet en Amazonie. Donc je dirais que ce qui caractérise les acquisitions et la sélection qui a été faite par rapport aux acquisitions de ces 10 dernières années, c'est qu'effectivement, il y a des artistes qui sont présents dans la collection depuis 10, 20, 30 ans même, dont nous présentons une pièce récente comme Philippe de Croza et d'autres qui sont très récemment entrés dans la collection, qui ont peut-être 3-4 ans de pratique professionnelle derrière eux, comme Natacha Donzé ou Caroline Bachmann, qui est quelqu'un dont la visibilité du travail arrive plus tardivement sur la scène artistique, mais qui est un travail qui est repéré non seulement dans le canton de Vaud, mais sur le plan national.
Qu'est-ce qui guide vos choix, Catherine Ottenagira? Parce qu'évidemment, qu'il y a la mission institutionnelle, et puis il y a aussi les goûts personnels. Là, on est face à une collection, enfin, une sélection de la collection, avec beaucoup de contrastes. On a du géométrique, on a du figuratif, on a de la photo, on a de la peinture, on a de la sculpture, on a de l'installation. Il y a une quantité, enfin, comme on dit, on a un joli panorama de la création romande. Vous allez avec votre cœur en même temps que vous servez l'institution. Comment ça se passe?
Bon, c'est vrai qu'il y a le métier, il y a 20, voire 30 ans de métier derrière moi quand même. Et on vise pas la diversité pour la diversité, mais il se trouve que la scène artistique romande et vaudoise a une dynamique tout à fait exceptionnelle depuis les années 90. En fait, c'est vraiment lié aussi à la formation des artistes qui a beaucoup changé par rapport à l'enseignement dévolu, que ce soit à l'école ou à la aide, où il y a une interface en fait avec des artistes enseignants venant du monde entier. Donc il y a une mobilité au fond des artistes pendant leurs études et après leurs études. Ce qui veut dire que la diversité qu'on voit ici accrochée dans la salle projet du MCBA correspond vraiment à ce qui est collectionné à la BCV, qui va de la figuration à l'abstraction, de pièces dans le registre de la photographie, qui a été collectionnée depuis 2004 uniquement, mais là aussi, il y a une scène dans le domaine de la photographie qui est juste exceptionnelle. Donc, il s'agit pas de goût personnel, il s'agit de repérer les artistes qui s'inscrivent vraiment dans le questionnement et dans la pratique artistique contemporaine de manière à la fois authentique et qualitative.
Je sais qu'on peut pas vous poser la question du budget que vous avez annuellement pour les acquisitions, parce que c'est quelque chose qui est secret défense, que je comprends très bien. Mais ça veut dire que ces œuvres-ci, qui sont dans la collection, elles vont pas entrer dans un marché spéculatif. Ça reste tranquille, ou non?
Oui, ça reste tranquille. Donc c'est vrai que, je dirais, si on veut donner un ordre d'idée par rapport aux acquisitions, on acquiert environ une moyenne de 10 pièces par année. La contrainte, si on peut parler de contrainte, c'est que toute pièce doit pouvoir être accrochée dans l'espace bancaire. Elle n'est pas achetée pour être mise dans une réserve, elle est achetée pour être exposée dans les espaces bancaires.
L'exposition unique et multiple, œuvre récente de la collection d'art BCV, c'est à voir au MCBA, c'est jusqu'au 9 janvier 2022. Merci Florence.
Avec plaisir.
Voici Beirut, Fisher Island Sound, c'est une nouveauté. Island Sound.
Alors, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui?
Ce week-end, on sortira.
Vous savez ce qu'on fait ce soir?
Tu m'attends, tu viens avec moi ou je te rejoins au théâtre.
Et qu'est-ce qu'on fait ce soir, Liliane?
Directement au théâtre.
Qu'est-ce que vous faites ce soir?
Alors, vous allez au cinéma?
Qu'est-ce que tu vas voir?
Je vais aller au cirque.
Papa, hein? Est-ce que je peux aller au cinéma?
Au concert? Quel concert?
Comment?
Sur la première.
Au musée?
C'est Vertigo.
On ira en ville, on ira dehors, on ira au théâtre, je te le promets.
Oui, j'arrive tout de suite.
Bonsoir Pauline Rappa.
Et bonsoir Pierre-Philippe.
Avec vous, on va se renseigner sur ce qu'on peut faire à partir d'aujourd'hui et on va aller vers vos coups de cœur culturels.
Bah oui, quoi de mieux qu'un peu d'humour d'abord en cette période troublée alors que l'affreux mois de novembre approche à grands pas. Allez, je vous emmène à Port-en-Truy, au musée Le Pire, le palais incongru des raretés étonnantes, l'ambassade de Plonk et Replonk. Des dessinateurs et dessinatrices de presse, Caro, Barrigue et Katharina Crayol, sont conviés pour raconter le monde d'après. On en a parlé avant d'ailleurs. Ce monde dont on a tellement parlé pendant la pandémie, Jacques de Plonk et Replonk à La Chaux-de-Fonds nous en dit un peu plus.
Pour cette expo sur le monde d'après, donc l'après-corona, qu'est-ce qui nous attend demain? Le monde numérique, les changements climatiques, les bouilloires connectées. Sur ce vaste sujet, on a invité 20 dessinateurs de presse donc. Et conjointement avec Plonk et Replonk, on a essayé d'évoquer le thème. Un thème où les choses peuvent se rejoindre. Entre le complotisme, la fonte des glaces et des tas de choses comme ça. Pourquoi des dessinateurs de presse? Pour un peu élargir notre horizon, que ce ne soit pas que du Plonk qui présente encore du Plonk. Et on trouvait qu'il est intéressant de parler de ce monde qui s'annonce, un monde assez confus. Quand j'étais beaucoup plus jeune, on attendait un apocalypse nucléaire, alors que maintenant on se retrouve avec un virus invisible transmis par des pangolins. Donc un vaste terrain de jeu, un vaste terrain de questionnement aussi.
Le monde d'après, c'est une expo collective à voir jusqu'au 22 avril au musée Le Pire, à Port-en-Truy, un film aussi, Pauline.
Après l'humour, voici un film noir, Médecin de nuit d'Elie Wajsman, avec un Vincent Macaigne bouleversant qui incarne Michael. Ce médecin de nuit soigne des patients classiques et d'autres que personne ne veut voir, les toxicomanes. Il est entraîné dans un trafic de fausses ordonnances et tiraillé entre sa femme et sa maîtresse. Le film raconte la nuit de la dernière chance.
Vous avez fait beaucoup de prescriptions de Subutex ces derniers mois?
Ben, je suis souvent appelé par des usagers.
Salut, docteur.
Vous parlez des toxicomanes.
Docteur!
C'est qui, papa?
Oui, oui, des toxicomanes.
Et méfiez-vous, parce que nous sommes prêts à ouvrir une enquête. Mais tu travailles, là, ce soir?
Ouais, je suis désolé.
Bon, Michael, j'ai un 19e et un 20e arrondissement.
Écoute, excuse-moi, mais j'aurais pas le temps, là, faut que je passe voir mon cousin.
Si, hein, ça va?
J'arrête, je veux tout arrêter, d'accord? Je vais arrêter avec ces ordonnances.
Si t'arrêtes maintenant aussi, puis va venir ici, il va défoncer ma pharmacie.
Tu m'as pas fait de fentanyl?
Non, je fais pas le fentanyl.
On m'a dit Subutex et fentanyl.
Non, je fais pas de fentanyl.
Bah si, tu vas me faire du fentanyl.
Tu fais du fentanyl?
C'est un 19e arrondissement, rue de Bervilliers, une femme qui a mal aux jambes.
D'accord. Je vais faire ça juste pendant 2 mois, ça fait 6 mois que ça dure.
Je t'aime bien, docteur. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu t'es mis?
C'est rien, c'est.
Mais arrête de dire que c'est rien.
On l'entend un peu, la musique est vraiment admirable. Elle est signée des frères compositeurs Evgeny et Sacha Galperin. Médecin de nuit, le film vient de sortir sur la plateforme de vidéo à la demande cinéphile.ch et c'est 6,40 francs la location.
Et on termine avec un podcast.
Un podcast assez pointu, original, créé par Pro Helvetia, la Fondation Suisse pour la Culture. 7 épisodes d'une 20aine de minutes chacun pour interroger les liens entre science, art et technologie, voir comment ces domaines s'inspirent mutuellement. Ça s'appelle Art Meets, en français, l'art rencontre.
La science elle-même et la pratique de la science, c'est pour moi comme un travail poétique, comme une œuvre pleine de beauté. Et là où il y a de la beauté, il y a de l'art.
Dans ce podcast, les artistes et les scientifiques dialoguent. Ariane Ripstein, spécialiste innovation et société à Pro Helvetia, nous éclaire.
L'idée d'un podcast, c'est que justement cette notion parfois un peu abstraite de la transdisciplinarité se matérialise dans des histoires très concrètes à écouter et qui se veulent accessibles à tous et à toutes. On suit par exemple une artiste et un astrophotographe lors d'observations nocturnes, ou alors le témoignage d'une chorégraphe qui collabore avec une chercheuse pour incorporer des odeurs dans ses performances. Prochain rendez-vous prévu le 4 novembre avec une metteuse en scène partie sur un glacier avec une scientifique et qui incorpore cette collaboration dans une pièce de théâtre.
Voilà, les épisodes sont à écouter sur les plateformes de podcast. Seul bémol, c'est en anglais. Mais bon, voilà, comme si moi, les langues, c'est pas votre truc. Ça permet en même temps de s'exercer.
Merci, Pauline.
Vertigo avec la nuit du court-métrage, en tournée en Suisse romande, de septembre à novembre.
Infotrafic RTS.
Sur l'axe Yverdon-Bienne, un bouchon est observé entre Auvergne et la Maladière en direction de Bienne. Des travaux d'entretien sont en cours dans le tunnel sous la ville de Neuchâtel. Par conséquent, on roule au pas sur l'A20 à partir de Valangin sur la route qui relie Peseux à Vaucéillon ainsi qu'entre la sortie autoroutière de Serrières et le centre-ville de Neuchâtel. Sur l'autoroute Lausanne-Vevey, d'importants ralentissements sont signalés entre la Blecherette et Chèbre en direction de Vevey. Attention, il faut prévoir un temps de parcours rallongé sur le tronçon. La circulation est également fortement ralentie sur l'axe Yverdon-Genève entre l'échangeur de Villars-Sainte-Croix et Morges en direction de Genève, sur la 9 Lausanne-Pontarlier entre les Clés et la douane de Valorbe en direction de Pontarlier. Sur le contournement de Genève, on ralentit entre Mérin et le tunnel de Vernier, puis entre Perly et Bardonnay. Sur l'axe Genève-Ost, il faut toujours patienter une demi-heure au péage français du tunnel du Mont-Blanc. Et puis enfin, cette information concernant l'école, la Fourca est fermée jusqu'à demain matin 8h. Par mesure de sécurité, l'inforoute en continu sur notre site rts.ch/trafic.
Infotrafic RTS.
Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Aujourd'hui, on a reçu le photographe Didier Rueff à propos de son livre 2020, une photo par jour pendant l'année 2020. Il est publié chez Til Schaap. Ce sont des photos 366 exactement en noir et blanc, car il est revenu au noir et blanc pour ce travail. Tout ce que vous avez entendu ou manqué dans l'émission, vous pouvez le réécouter ou le redécouvrir ou le découvrir sur cette page rts.ch/vertigo.
L'heure avec les goûts et terroirs du 28 octobre au 1er novembre à Bulle et le Gruyère AOP.
Il est 18h sur la première, c'est l'heure de retrouver Forum. Belle soirée, à demain.